Nous allons traiter donc ce matin, durant toute la journée, la question de la réconciliation dans la famille, qui est un thème qui n'est pas facile. Et alors je vous demande la prière, et aussi la prière pour le Père Stéphane, qui fera l'enseignement cet après-midi. Il y aura deux enseignements. Ce matin, ce sera les blessures dans le couple et la famille. Et cet après-midi, les chemins de réconciliation. Donc ce matin, ça risque d'être un peu plus, peut-être difficile à entendre. Et cet après-midi, peut-être plus d'espérance, moi j'espère, avec des chemins qui se s'ouvriront pour pouvoir entamer ce chemin de réconciliation. C'est important, je trouve, cet aspect-là pour à deux titres. Premièrement, pour vous-même. Hein, tous, on vient d'une famille, et parfois d'une famille qui est blessée en partie, en tout cas. Mais aussi pour ceux que vous accompagnez, que ce soit votre propre famille ou dans les liens que vous pouvez avoir autour de vous, ou si vous êtes en charge de catéchisme ou en charge de pastorale, etc. Donc de bien voir aussi de façon générale ces haltes spirituelles, pas seulement de façon personnelle et portative, j'allais dire, mais de façon plus ample, c'est-à-dire ayons aussi ce regard de dire je reçois quelque chose, mon intelligence, mon cœur est éclairé, mais aussi pour pouvoir redonner à d'autres et pour pouvoir peut-être en soutenir d'autres. Le plan de l'enseignement donc de ce matin, vous l'avez au tableau, donc il y aura trois parties. Premièrement, les blessures avant le mariage, donc le temps où les conjoints étaient célibataires. Avec la réconciliation à opérer avec soi-même et la réconciliation à opérer avec son conjoint, mais du temps où il était célibataire. Ensuite, dans le cadre de la relation à deux, la deuxième partie. Le début de la relation, il y a trois sous-parties, c'est très structuré aujourd'hui. Trois sous-parties, le début de la relation entre époux et les blessures liées à la paternité et maternité. Et la troisième partie, ce sera la relation parent-enfant. Voilà le plan donc de ce matin. Je l'ai mis au tableau pour que vous puissiez vous repérer et vous resituer donc au cours de l'enseignement. La première, comme introduction, ce que l'on peut dire, c'est que notre monde a un besoin urgent de réconciliation, besoin urgent de miséricorde. Et que ce que l'on peut constater en nous et aussi autour de nous, c'est que les divisions, les blessures dans les personnes, les familles, les peuples sont multiples. Et parfois, les hommes et les femmes de notre temps se trouvent dans des impasses, ou parfois nous nous trouvons dans des impasses. On pourrait voir aussi les sources de division au niveau social, mais aujourd'hui, on va se centrer sur la famille, qui est au fond aussi la source de toutes les autres division, ou alors la source aussi de toutes les grâces qui sont accordées aux personnes. C'est vrai que ce que l'on peut constater, c'est plutôt que c'est pas facile pour la famille aujourd'hui d'être unie. Pas mal de familles déchirées, de couples séparés, d'enfants qui sont chahutés de droite, de gauche. Et c'est évidemment pas le plan de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de former une famille humaine et qu'entre nous tous, nous soyons unis, tous les hommes et les femmes qui sommes sur cette terre, nous ayons cette unité. Ça, c'est le désir de Dieu. Je trouve ça, c'est de certaine manière assez vérifié à la fin de l'année avec cette catastrophe en Asie du Sud-Est où spontanément, hein, sans que rien n'ait été consulté, ben, les personnes se sont mises en mouvement. Ben, ce qui se passe à l'autre bout de la planète, ça me concerne aussi. C'est le signe que vraiment on est appelé pour se donner la main, on est fait pour marcher ensemble sur cette terre et s'aider. Ça, c'est le désir de Dieu. Et c'est vrai que le désir de Dieu sur la famille, c'est cette mission de transmettre et de révéler l'amour. Le Saint-Père Jean-Paul II, dans sa lettre aux familles, il dit ça, Familiaris Consortio, il dit transmettre et révéler l'amour. Donc c'est vrai que la barre est mise assez haute, et que la réalité parfois n'est pas si facile, parce que la réalité, c'est que nous nous blessons les uns les autres, en le sachant, sans le savoir, mais c'est quand même assez fréquent, des petites choses ou des grandes choses, on va voir peut-être des grandes choses aujourd'hui, mais prenons conscience pour qu'il y ait un chemin de réconciliation, il faut commencer à dire la blessure. De même, on peut prendre l'exemple avec la confession, quand je veux me réconcilier avec le Seigneur dans la confession, je commence par dire ce que j'ai fait, dont j'ai conscience et qui a pu blesser le cœur de Dieu. Donc ce matin, ce qu'on va plutôt faire, c'est mettre des mots sur ce qui a pu blesser. Il faut dire les choses. La peur de dire les choses est parfois même un obstacle à la réconciliation. Parce qu'évidemment, ça touche des choses très intimes, surtout quand il s'agit de la famille. Et en même temps, ce n'est pas si spontané que ça, la réconciliation. Ça se prépare. Il faut un peu savoir un peu la démarche, avoir quelques clés, quelques éléments. Et on ne peut pas parler de réconciliation en général. Je veux me réconcilier avec l'humanité. On se réconcilie avec des visages. Donc reconnaître la blessure, mais reconnaître aussi l'auteur de cette blessure. Qui peut être moi-même. Donc on va voir au cours de cet enseignement à quel niveau il y a pu y avoir rupture ou blessure pour pouvoir commencer dans l'humilité, un processus de réconciliation. C'est toujours quelque chose qui se démarre dans l'humilité. Parce que c'est pas si simple. Et il faut souvent pas mal de temps pour arriver petit à petit à refaire le lien et à pouvoir regarder l'autre en face. Sans haine ou sans souffrance. C'est dans l'humilité. Donc on va voir, premièrement, donc avant le mariage. Donc du temps où... pour celles d'entre vous qui sont mariées, du temps du célibat. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans le mariage avec, on peut dire, un passif et un actif. On vient d'une famille qui a une histoire. Et chacun arrive avec sa propre histoire. Et donc, il y a aussi besoin d'une réconciliation antérieure à l'histoire à deux. À votre histoire avec votre époux. Sinon, s'il n'y a pas cette réconciliation première, il est fort probable que dans la vie de couple, les choses apparaissent et se mettent au jour et puissent entraîner des difficultés. La première réconciliation, je vais dire, c'est avec soi-même. Se connaître, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Si la famille, c'est ce lieu où on transmet, où on révèle l'amour, cet amour, il commence déjà par l'amour de nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'aimer soi-même, aimer sa famille. L'acceptation de ses choix, l'acceptation de son corps, l'acceptation peut-être de ses échecs, de son histoire, de ce qui fait mon histoire. Et c'est parfois ce que l'on constate, que des manques d'acceptation, parfois des blessures personnelles, vont parfois rejaillir sur la famille ou sur le couple ou la famille qu'on a commencé. Donc on arrive dans le mariage avec ses propres limitations, avec ses propres grâces. On ne va pas voir que l'aspect négatif, mais avec aussi ses propres limites. Et il ne faut pas oublier que le mariage, c'est cette école d'amour où l'on apprend, au fond, à être des pauvres face au Seigneur. des pauvres qui mettent en commun leur désir de s'aimer, mais qui reconnaissent aussi leurs limites dans l'amour et leurs blocages. Leur difficulté de s'accepter eux-mêmes ou d'accepter certaines parties de leur vie. Et ça, c'est aussi important de se dire, on est des pauvres face au Seigneur, et c'est comme pauvres que l'on veut cheminer ensemble hein, dans le mariage. Ce n'est pas fait pour les supermans ou les superwoman. Donc c'est bien, on se sent à l'aise du coup. Hein. C'est fait pour les pauvres aussi, comme les communautés religieuses. Hein. La communauté religieuse, c'est des pauvres qui arrivent avec exactement pareil, avec leurs difficultés, leurs blessures, avec, et qui veulent cheminer ensemble ben, vers l'amour fraternel, et témoigner, et qui ont cette prétention extraordinaire, mais par la grâce de Dieu, de témoigner ensemble de cet amour de Dieu. Et c'est vrai que, par exemple, on peut avoir des manques de confiance en nous-mêmes, qui peuvent venir de l'éducation, parfois trop rigide, et qui peuvent entraîner, par exemple, dans le mariage, des difficultés. Soit on se déprécie, soit on est trop raide, soit on est hypersensible, soit on est trop agressif ou dépressif. Bon, il peut y avoir plusieurs choses qui viennent justement de notre, j'allais dire, de notre histoire. Mais c'est aussi dire que la vie en couple va être ce lieu où on va pouvoir grandir. Et il faut le voir de façon très positive. Même si on va mettre ce matin le doigt sur des choses qui peut-être font mal, mais c'est en même temps dans l'espérance de dire on va pouvoir grandir au niveau personnel. Sans la douleur, le médecin ne peut pas guérir. Et si, à un moment ou à un autre, on sent que ça fait mal, mais c'est là où le médecin va pouvoir appliquer son traitement, hein, c'est vrai au niveau physique, c'est vrai au niveau spirituel. Donc la douleur n'est pas forcément mauvaise, elle est indispensable pour guérir. Ce qui est très difficile au niveau médical, quand quelqu'un a une insensibilité, hein, du coup, il peut très bien avoir une hémorragie, il peut très bien avoir une infection, et il ne s'en rend pas compte. Donc ayons aussi un regard parfois positif sur ce qui nous fait souffrir comme un lieu qui va permettre une guérison et donc une réconciliation. Et c'est vrai qu'on voit au niveau personnel des manières répétitives, des schémas, des mécanismes de défense qui se sont construits à partir de nos blessures. Et ce qui est un peu difficile à évaluer, c'est la part de la blessure, c'est-à-dire d'un peu... on peut dire inconsciente, et la part du volontaire. Qu'est-ce que j'ai volontairement construit? Qu'est-ce que j'ai développé tout simplement pour me protéger? Et ça c'est important de se dire que la réconciliation, elle est à partir d'actes volontaires. Comme la confession, elle est à partir d'actes volontaires, où notre volonté s'est engagée dans un chemin qui n'était pas le bon. Donc il faut bien distinguer le péché de la blessure. La blessure, c'est peut-être des manques d'amour, c'est peut-être être né dans une famille difficile, c'est peut-être... Bon, on n'y peut pas grand-chose, et puis on est les enfants, vous savez bien, c'est un peu des éponges, ils reçoivent ce qu'on leur donne, ce qui parfois nous panique aussi. Hein. Donc, donc on a reçu quelque chose, mais une chose est la blessure, autre chose le péché. Le péché qui est vraiment cet engagement de notre liberté dans des impasses. Mais en même temps, s'il y a une nécessité de se réconcilier avec soi-même, il faut aussi avoir un regard par rapport à ce qui nous a blessés. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Et on pourrait tourner la question de la façon suivante. Qu'as-tu fait avec ce que l'on t'a fait? Qu'est-ce que tu en as fait? De cette difficulté, de cet échec, de ce péché où tu sais que toi-même tu t'es engagé. Parce que si parfois on n'a pas forcément de prise sur ce que l'on reçoit comme blessure, on a toujours une prise sur savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que je reste dans la rancœur? Est-ce que je reste dans la distance? Parfois, ça, il n'y a pas d'autre solution. Là aussi, soyons humbles. Est-ce que je développe une attitude de haine ou est-ce que j'ouvre la porte à une autre relation? Qu'est-ce que j'en fais? Donc il y a une liberté qui va s'engager. Et dans cette liberté-là, vraiment, on a besoin de l'aide du Seigneur. Donc te réconcilier avec ceux qui t'ont fait souffrir et dont l'action se sent encore dans ta vie familiale ou conjugale. Donc ça, c'est bien faire aussi le lien dans cette unité. Il n'y a pas avant le mariage, après le mariage. Ce n'est pas une potion magique. On porte ensemble, parfois durant toute notre vie, un certain nombre de choses. Le deuxième point, c'est réconciliation avec le conjoint dans ce qu'il a pu faire avant le mariage. On est bien d'accord. Donc on est toujours dans la partie A. Pour une fois, vous avez un plan, on a partie A avant le mariage, donc on vient de traiter par rapport à soi-même, deuxièmement, par rapport au conjoint, avant le mariage. Bon, évidemment, ce qui s'applique pour nous s'applique pour lui, c'est l'accepter et l'accueillir tel qu'il est aussi avec son histoire, avant que vous vous soyez connus. Quand je prépare les fiancé au mariage, et que je fais le commentaire de l'échange des consentements, à un moment donné, c'est très beau, c'est dit, je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois. Donc ça veut dire, au seuil du mariage, au moment même du sacrement, quand les fiancés sont devant l'autel, ils s'engagent à accueillir, à accepter l'autre, au fond, avec son histoire, ses choix, sa famille. Et parfois aussi, il y a un pardon à donner à ceux qui ont fait souffrir mon épouse, mon époux, avant même que je l'ai connu. Je me souviens de cette femme qui me dit « J'en veux à mon beau-père qui a été si dur avec mon mari durant son enfance, l'a traité de nul et de bon à rien, et lui rend plus difficile la tâche de père et d'époux aujourd'hui. » Donc cette femme disait, au fond, elle avait aussi une réconciliation à faire avec sa belle-famille, mais non depuis le mariage antérieur. Ou alors des expériences faites comme célibataire. Je pense à cet homme marié qui dit qu'il avait fait du spiritisme et qui dit « Lorsqu'adolescent, j'ai fait tourner les tables ». Et j'ai invoqué les esprits, je n'en suis toujours pas sorti. Et j'en ressens les séquelles. Parfois, j'ai peur de sortir tout seul dans la nuit. Donc, parfois, de pardonner ça aussi. Et c'est important de redire que l'on accepte l'autre tel qu'il est et qu'il n'a pas besoin de démontrer quelque chose pour être aimé. Ou alors ça peut être des expériences sexuelles. On a parlé de la sexualité la dernière fois. La sexualité dans le couple et puis la question de la contraception. Par rapport à la pornographie, aux habitudes ou aux pratiques sexuelles qui ont été prises avant le mariage. Aux expériences qui ont été faites. Ou alors aux violences sexuelles subies dans l'enfance. Ou dans l'adolescence. Qui parfois entraînent aujourd'hui dans la vie matrimoniale et conjugale et familiale des difficultés. Ou alors tout ce qui est lié aussi à la question de la vie avant le mariage. La question, par exemple, tellement douloureuse de l'avortement. Je me rappelle cette femme de 40 ans qui me dit, J'avais 16 ans et je suis tombée enceinte. Mes parents m'ont demandé d'avorter. Aujourd'hui, encore, je pense à cet enfant et à l'âge qu'il aurait. Parfois, je me sens attirée vers le néant et je me demande pourquoi vivre. Donc, il y a aussi une réconciliation à faire avec les actes que le conjoint a posés avant de nous connaître. Il y a un pardon à donner. Un pardon à donner à ceux qui lui ont fait subir aussi des difficultés, des souffrances, et qui fait qu'aujourd'hui, il a telle ou telle difficulté dans la vie matrimoniale ou familiale. Donc ça, c'était avant, hein, avant la relation à deux. Ensuite, dans le cadre de la relation à deux, donc la deuxième partie. Premier point, au début de la relation à deux. Ça, c'est important de se dire que dans le cadre de la relation de couple, il y a parfois des difficultés qui naissent au début, tout début de la relation. Hein, le père Denis Sonnet, je ne sais pas si vous le connaissez, au moins peut-être certaines de noms, qui disait dans les... Ah non, c'était le dernier Famille chrétienne, je crois. C'est le père Jacques Marin. Le père Jacques Marin qui disait... Il accompagne pas mal de couples qui connaissent des difficultés et il dit à chaque fois, je leur demande de me parler de leur temps de fiançailles. Parce qu'il s'est rendu compte qu'au fond, au tout début du mariage, dès le début du mariage, il y a, et de la relation à deux, donc antérieure au mariage, il y a eu parfois des blessures qui se sont enracinées. Donc il peut y avoir des pardons à donner, car au début de la relation, on a pu être trop rapide, trop fusionnel. Et puis les motifs de ma relation avec toi n'étaient pas forcément si clairs, et je n'ai pas forcément donné un consentement, hein, libre. Et là encore une fois, je dis aux fiancés, apprenez, tout mariage d'amour est aussi un mariage de raison. Il faut y avoir des raisons pour se marier. Et je me rappelle cette femme qui me disait avec action de grâce, quand je me suis marié, j'avais telles raisons qui m'ont poussé au mariage avec mon actuel époux, et 15 ans après, c'est les mêmes raisons qui me poussent à l'aimer. Ah, c'est très beau d'entendre ça. Hein. Mais je pense à cette femme qui me dit, je n'étais pas vraiment libre, je me suis un peu senti forcé par ma famille, ou par ta famille, ou parce que j'étais enceinte, hein, et je t'en veux encore. Donc, avant le mariage, hein, au début de la relation à deux. Ou parfois l'impression de s'être fait manipuler, ou d'un certain manque de franchise, plus ou moins volontaire, d'un côté comme de l'autre. Et des blessures qui ont été au début de la relation, qui peuvent rejaillir parfois 10 ans après. Je pense à cette personne qui me disait... Je me suis marié trop jeune pour être vraiment libre. Et je n'ai pas l'impression d'avoir eu de jeunesse. Tout de suite, les enfants, le travail. Je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte sans transition. Je n'ai pas eu de jeunesse et je lui en veux. Ou bien, ce n'est pas avec cet homme ou cette femme que je me suis marié. Hein, il est ou elle est différent, différente. Je n'avais pas vu tel ou tel aspect. Donc c'est vrai que la trop grande rapidité dans la relation ne laisse pas forcément à l'intelligence le temps de faire son travail. Et on se marie parfois sur des impressions, sur des émotions, et non pas sur une vraie connaissance de l'autre. Ou une suffisante connaissance de l'autre, parce qu'on peut... S'il fallait avoir une vraie connaissance de l'autre, il faudrait 15 ans de fiançailles. Vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins une suffisante connaissance de l'autre. Ou alors parfois des mots durs que l'on s'est dit sur des instants de colère, au début de la relation à deux ou après. Hein, je me rappelle cette personne qui me disait, mon mari m'a dit... Un jour, je sais que je ne pourrai jamais te faire confiance. Elle me dit encore 20 ans après. Elle s'en rappelle. Mais... Le problème, chez la femme, il y a... comment on appelle ça un enregistreur caché. Ça enregistre très très fort. Et ensuite, tac, trois jours. Alors, attention. Il y a un magnéto, voilà. Ou alors des expériences sexuelles qui ont pu être faites avec l'actuel conjoint, donc qu'on a vu avant le mariage, mais avec l'actuel conjoint, au début du mariage, et qui ont laissé des cicatrices. Je me rappelle cette femme qui me dit « On a fait avec mon mari n'importe quoi au niveau sexuel, avant et au début de notre mariage. Hein, aujourd'hui, je me sens sale. » Ou alors, parfois, ça peut être encore plus... parfois c'est un peu subtil. Dans le cadre de la préparation et de l'organisation du mariage, il y a pu y avoir aussi des difficultés. Parce que c'est pas un temps facile, le temps de l'organisation du mariage. Parce qu'il y a chaque famille découvre l'autre famille, etc. Il y a des histoires financières, évidemment. Hein, alors, je me rappelle une personne qui me dit, moi, pour mon mariage, mon mari m'a imposé ses choix pour le déroulement de la cérémonie. Ou alors ta famille doit encore de l'argent à ma famille. Ou alors pour l'organisation du mariage, je me souviens un jeune couple hein, qui disait « Je me suis senti seul, nous nous sommes sentis seuls et notre famille ne nous a pas aidés. » Donc, hein, j'ai senti toute la responsabilité peser sur moi. Donc vous voyez, au moment de la préparation ou l'organisation du mariage, il faut aussi dire ben, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir qui a pu parfois blesser et quelque chose qui ressort des années après et au fond qu'on avait enfoui et qui s'était niché là. Le deuxième point de la deuxième partie, c'est après le mariage. Les sources de parfois de souffrance, ou les besoins de réconciliation entre les époux, cette fois-ci, donc dans la relation matrimoniale, ils peuvent être divers. Premièrement, c'est le sentiment de solitude. Peut-être un jour, on fera simplement une halte spirituelle sur cette question de la solitude. Mais une solitude qui peut être considéré comme un abandon de la part du conjoint. Cette femme qui m'a dit « J'ai l'impression d'être trop seule face aux grossesses, aux maladies des enfants, à l'éducation des enfants. » Donc un peu ce sentiment d'être abandonné de plus, alors qu'au moment des fiançailles, il y avait plein de délicatesses, on tenait la porte, il y avait les petits bouquets de fleurs qui vont bien, il y avait les petits bisous dans le cou qui vont bien, etc. Au bout de 15 ans, 20 ans, 10 ans, je ne sais pas, bon, parfois ce n'est pas forcément autant de délicatesses, parce qu'on a perdu parfois ce regard d'admiration et d'émerveillement l'un envers l'autre, hein. Et donc de reprendre au fond conscience qu'il peut y avoir des petites difficultés, des petites blessures qui ont pu s'enraciner là. Et donc à pardonner, une réconciliation. C'est pas parce que c'est petit, vous savez, bien souvent moi je me rends compte, c'est des petites choses qui se sont accumulées. C'est pas des grands trucs, hein, mais c'est comme dans la vie communautaire, c'est exactement pareil. C'est des agacements pour des trucs, des lenteurs, des manques d'ordre, des manques, des manières de faire, etc., ou des paroles qui ont été dites et qui m'ont blessé. Et donc, c'est de s'asseoir. C'est très beau dans les équipes Notre-Dame, le devoir de s'asseoir. C'est-à-dire, on parle de nous en tant que nous et on se dit les choses. On ne parle pas des enfants, on ne parle pas du boulot, on ne parle pas de la belle-mère. Hein, on parle de nous en tant que nous et on se dit les choses. Et de se dire, pardon pour ça. Donc c'est toujours une attitude d'humilité. Il peut y avoir des choses beaucoup plus douloureuses, hein, des blessures liées au manque de fidélité matrimoniale, qui peuvent entamer sérieusement la confiance. Ou alors des blessures liées, on en a un peu parlé à la halte spirituelle passée, liées à la sexualité dans le cadre du mariage, soit par excès, et donc la femme peut se sentir un objet parfois, fait n'importe comment, soit par défaut, hein, où l'épouse en général laisse seul son mari face à son désir sexuel, où elle se laisse prendre, mais elle ne se donne pas. Un peu passive. Donc il peut y avoir là aussi une souffrance. Et c'est toujours bien dans la vie de couple de pouvoir évoquer cette question-là. Tant pour rendre grâce, que pour dire, bah, y a peut-être quelque chose où on est appelé à grandir. On l'a vu la fois passée, toute la question de la sexualité n'est pas si simple. Et c'est un chemin aussi de croissance auquel nous sommes appelés. Ou alors des blessures qui sont liées à l'argent. Enfin, ça faut faire très attention avec la question de l'argent. C'est vraiment pas pour rien que Jésus a dit il faut choisir entre Dieu et l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Que ce soit la répartition de l'argent concernant les héritages. C'est incroyable. Hein. Et donc dans la famille au sens large, avec les frères, les sœurs, etc., les oncles, les tantes, c'est parfois incroyable ce que l'on peut voir, et de blessures et de coupures dans les familles au sens large, hein, à ce niveau-là. Ou alors parfois l'époux qui fait trop sentir que c'est lui qui amène l'argent. Hein, dans le cas où il y a qu'un des deux qui a une activité salariée. Hein, et dit volontiers à sa femme qui éduque les enfants, « Toi, tu as la vie facile. » Ben là, il y a une blessure. Et donc, il y a une source de réconciliation. Ou alors, des blessures, les offenses liées à la vie spirituelle des époux et leur relation à Dieu. On n'y pense pas toujours. Un homme qui me dit, « Parfois, je me demande si je ne me suis pas marié avec une bonne sœur. » Parce que l'homme fait souvent l'expérience d'un certain abandon face parfois à un excès de vie spirituelle de son épouse. Hein, quand il s'agit d'excès, bien sûr, pas quelque chose de légitime. Mais de toute façon, il faut en parler. Il faut en parler. Le fait de venir ici, ben, pour celles d'entre vous qui sont mariées, ben, il faut en parler. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses c'est trop? Est-ce que tu penses c'est pas assez? Est-ce que tu penses bon? Pour justement que l'époux ne sente pas qu'il y ait une compétition entre lui et Dieu. Parce qu'évidemment, il ne tient pas la route. Quoi. Je veux dire, je ne vous fais pas de dessin. Hein. S'il sent qu'il y a le bon Dieu comme compétiteur, et puis lui va essayer d'atteindre monter à l'échelle, mais il ne va pas se... Bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, Ou alors... Ça, c'est encore parfois d'imposer à l'autre son chemin spirituel. Alors, c'est vrai qu'on se tire vers le haut dans le mariage. Ça, c'est important. Comme dans la vie commune, on est appelé à se tirer vers le haut. Hein, et c'est vrai que l'épouse qui a peut-être plus de sens spirituel, qui souvent accorde plus d'importance à la relation à Dieu, est amenée à tirer vers le haut son époux, qui, bon, parfois, n'y voit pas quelque chose d'ultra passionnant, mais qu'il le découvre. Mais attention de ne pas, justement, trop imposer le chemin à l'époux, au mari. Hein, je me souviens de cette femme, je l'ai visitée, et je venais d'arriver chez eux, et elle me dit, dites à mon mari de prendre un père spirituel. Le mari, je venais de le connaître, je me voyais mal en train de dire, bah, écoutez, vous voyez pas un père spirituel, non. Et donc ça, du coup, cette spiritualisation, au lieu d'être un lieu de communion, est un lieu parfois d'opposition et de blessure de l'amour conjugal. Et parfois aussi, cette spiritualisation, dans le mauvais sens du terme, révèle un manque de relation conjugale. Hein, on compense par le spirituel. Le troisième point dans ce cadre de la relation à Dieu, à deux, c'est blessure liée à la paternité ou à la maternité. On l'a vu la fois passée, le lien qu'il y a entre la fécondité des époux et la vie et la relation conjugale. Il y a un lien. De même, il y a un lien entre le manque de fécondité des époux et la relation conjugale. Et donc les offenses liées à l'accueil de la vie, soit par la pratique de l'avortement ou de la contraception, qui blesse l'amour conjugal, qui de sa nature est ouvert à la vie. Ou alors par le non-accueil d'une grossesse. Une jeune femme me dit, « Quand j'ai été enceinte du quatrième, je ne me suis pas réjouie. Ce n'était pas un enfant désiré. 3 mois après, je faisais une fausse couche. » Ça ne veut pas dire que toutes les fausses couches sont liées à ça, évidemment. Mais elle l'a senti comme, au fond, qu'intérieurement, elle ne l'avait pas acceptée. Et donc, elle sentait le besoin d'une réconciliation aussi par rapport à ça. Ou alors, tout dans le cadre de la paternité et de la maternité, hein, une autre femme me dit « Quand j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte du cinquième, il m'a fait la gueule et m'a rendu la vie impossible pendant toute ma grossesse. » Mais les trucs parfois, on se demande. Ou alors un garçon de 20 ans qui me confiait « Ma mère a tellement souffert quand elle m'a mis au monde qu'elle n'a pas voulu me voir pendant 1 mois. Aujourd'hui encore, je porte les conséquences de cet abandon. » Une autre chose par rapport à la paternité ou à la maternité, hein, c'est une certaine déséquilibre dans la relation du père ou de la mère avec les enfants. Soit une surprotection maternelle, une surdimension du rôle de la mère, qui gère tout, contrôle tout, prévoit tout, décide tout, et ne laisse pas la place au père, qui parfois est ravi de ne pas la prendre. Une femme me dit, alors que sa fille va peut-être se marier, « Je n'ai peut-être pas laissé assez de place à mon mari. » C'est le thème, je crois, de la prochaine halte spirituelle, la place laissée au père, dans la famille. C'est ça, la prochaine ? Ah, c'est l'argent, Dieu et l'argent, c'est celle d'après. Donc, je n'ai peut-être pas laissé assez de place à mon mari, hein, et sa fille, qui me disait parfois les larmes aux yeux, je ne veux pas former un couple comme celui de mes parents. Maman n'a pas assez de respect pour papa et le traite comme un minable. Je n'ai pas d'admiration pour mon père. C'est maman qui prend toutes les décisions et papa est réduit à rien. Comment puis-je avoir une admiration pour mon futur mari si je n'en ai pas pour mon père? Donc c'est une jeune fille, donc à la fois le côté de la maman qui disait « c'est vrai que là il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé », et à la fois la fille qui se préparait au mariage, qui disait au fond « là j'ai aussi besoin d'une réconciliation ». Ça ne veut pas dire que ce sera impossible, ça veut dire qu'il y a peut-être besoin d'une réconciliation. Au moins le dire, même si ça fait un peu mal, mais le dire. Parce qu'ensuite, si ce n'est pas dit, cette jeune fille, dans le nouveau couple qu'elle va former, ben, il est fort probable qu'il y ait des choses qui vont ressortir. Donc autant le dire et puis les présenter devant le Seigneur. Ou alors des blessures liées à l'égoïsme du père qui fuit volontairement dans le travail. Hein, l'absence du père n'est pas un problème en soi, hein, car l'épouse a ce rôle de rendre aussi le père présent. C'est ce qu'on verra dans la place du père dans la famille. Quelle place laisser au père dans la famille. Mais ce sentiment d'abandon, d'être seul, trop seul, là aussi il y a une réconciliation. Il y a parfois un pardon à dire. Ou alors, par rapport à la question de la paternité ou de la maternité, de laisser trop d'importance à la maternité ou paternité sur la relation d'époux, qui est première et doit rester première tout au long de la vie. Ce qui est premier, c'est la relation des époux. Et les enfants rentrent dans cette relation des époux. Le maternage comme la spiritualisation peuvent être des signes d'une trop faible relation sponsale. Sponsale, c'est-à-dire d'époux. Je ne me sens pas assez épouse, pas assez épousée. Évidemment, la nature a horreur du vide, donc on compense. Donc vous voyez ces blessures qui liées au fond à la paternité ou à la maternité. On passe au troisième plan, la relation parent-enfant. Il y a aussi des réconciliations. C'est pas trop vite ? Ça va ? Des réconciliations aussi à opérer dans ce sens-là, hein, quand on est parent par rapport à nos propres enfants. Déjà, les violences qui peuvent être exercées sur les enfants, les colères qui sont souvent paternelles, hein, qui apeurent les enfants et lui ôtent souvent sa confiance en lui. Hein, cette femme, mère de 4 ou 5 enfants, qui me disait, mais il part parfois dans des colères telles que les enfants sont tétanisés. Mais ça vient de quoi ? Et ou alors elle me disait, mais d'où est-ce qu'il tire une violence pareille ? Mais ça vient de sa propre éducation. Et donc, il y a tout un travail intérieur et spirituel et parfois psychologique pour pouvoir débloquer des choses, parce que l'enfant, évidemment, l'enfant, il met le doigt parfois là où ça fait mal. L'enfant, il exige beaucoup, il demande beaucoup, surtout quand il est petit. Ou alors parfois l'absence de tendresse pour l'enfant. Parfois ce sentiment, hein, que moi-même, je n'ai peut-être pas reçu la tendresse et que je ne sais pas l'exprimer. Donc j'ai une réconciliation à faire avec mes propres enfants. Ou alors, parfois un certain refus ou une préférence qui est faite entre les enfants. Un refus, c'est peut-être fort, mais une difficulté au fond à accepter l'enfant. Il y a une mère qui me disait, quand mon petit enfant vient se jeter dans mes bras, j'ai parfois un mouvement de rejet avant de l'accepter. Sa tendresse me déstabilise. Elle a du mal à cette tendresse qui touche, hein, qui ce contact. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des enfants qui peuvent exaspérer, il peut y avoir des enfants qu'on préfère, d'autres qu'on met un peu de côté, sans s'en rendre toujours vraiment compte, et sans que ce soit volontaire, évidemment. Hein. Mais c'est bien d'avoir un regard, de dire, par rapport à mes enfants, est-ce que je donne à chacun ce dont il a besoin, au moment où il a besoin ? Mais ça, c'est dans la prière qu'on le reçoit. C'est pas simplement en lisant des livres. Les livres peuvent aider, mais c'est vraiment dans la prière où j'apprends, hein, comme père et comme mère, à donner, à être attentif à mon enfant et lui donner ce dont il a besoin au moment où il faut. Et si je ne suis pas arrivé, pour X raisons, ben, je sais pas, tu n'as pas été là, maman, tu n'as pas été là, ou papa, alors que j'avais besoin de... Je me rappelle cette jeune fille d'une vingtaine d'années qui me dit, papa ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et je suis sûr qu'il m'aime. Mais il ne me l'a jamais dit. Il ne m'a jamais pris dans ses bras en me disant, tu es ma petite fille. Parce que les hommes, on a plus de difficultés à exprimer les choses. Alors bon, ben, il y a eu une vraie réconciliation entre père et fille. Hein, ou alors un père qui s'aperçoit, quand il est déjà âgé, qu'il a été trop dur avec sa fille. Il a dit, j'étais trop dur. Mais ça l'a fait perdre confiance. Maintenant, Elle a du mal à faire sa vie. Il dit, je sens que j'ai une part de responsabilité dans sa difficulté à construire sa vie aujourd'hui. Elle n'arrive pas à se marier. Elle vit ça comme une souffrance. Eh bien, il y a eu une réconciliation. Ils ont parlé tous les deux. Alors qu'elle avait pas loin de 40 ans, il y a eu une vraie réconciliation. Les deux, bon, une vie de foi. Ils ont remis ça devant le Seigneur en disant, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on est. On n'est pas toujours au top, et bien ça on le sait bien. Mais c'est pas trop la difficulté. Si vraiment on reconnaît qu'il y a tout un chemin qui est ouvert. Ou alors, par rapport aux enfants, il peut y avoir des blessures dans le sens où un des deux conjoints veut se servir des enfants pour faire passer un message à l'autre. Cette femme de militaire qui me dit « Mon mari travaille à Paris et je suis avec les enfants en province. Il rentre le mercredi et le vendredi soir. Bonne partie de la semaine, je la passe seule avec les enfants. Je me suis assez vite rendu compte que je pouvais utiliser les enfants pour faire payer à mon mari son absence et le culpabiliser. J'avais dans les mains un pouvoir que j'ai refusé d'utiliser, contrairement à certaines amies, dans le même cas, qui faisait dire aux enfants devant leur père, « Quand tu n'es pas là, c'est mieux. Je suis chez moi, pas toi. » Sympa. Quand on rentre. Mais c'est justement dans cette relation, là il y a aussi, quand on sent qu'on a eu une capacité de s'engager et que l'on s'est engagé au fond, par rapport à nos enfants, mais parce qu'on n'avait pas forcément le courage de dire à son mari telle ou telle chose, ben on a fait, ben dis à ton papa ça, tiens. Et c'était très beau de voir cette femme, on en a parlé ensuite, elle dit, mais je me suis rendu compte, au fond, que mon rôle d'épouse, c'était de rendre le père présent. Et donc, chaque fois, quand il était en déplacement, on regardait sur la carte, ouais, on va attendre papa pour faire tel achat, on va attendre papa pour telle autre chose. Du coup, quand le papa rentrait, il n'était jamais parti. D'une certaine manière, il n'était jamais parti parce que son épouse le rendait présent. Et lui voulait vraiment. Ce n'est pas une démission, mais parfois les situations professionnelles font qu'il y a ce qu'on appelle les célibataires géographiques, et ce n'est pas du tout facile pour un homme. Ni pour l'épouse ni pour les enfants, mais elle s'est rendue compte au fond qu'elle avait un pouvoir entre les mains et qu'elle avait renoncé à ce pouvoir. Alors, pour redire aussi comment parfois les choses, à travers d'une difficulté, il y a quelque chose, il y a quelque chose de beau qui est né. Ou alors quand les enfants sont les arbitres des conflits. L'enfant sent confusément, mais de façon certaine, que l'union de ses parents, parfois, dépend de lui. Ou alors qu'il est source de la désunion. C'est aussi ça. Soit que l'union de papa-maman dépend de lui, soit que c'est à cause de moi que papa-maman ne s'entendent pas. Cette jeune fille de 21 ans, aînée d'une famille nombreuse, qui me disait « Je voyais maman et papa se disputer, je faisais tout pour qu'ils se réconcilient. Maman, parce que j'étais l'aînée, me faisait des confidences que je n'aurais jamais dû entendre. Je me suis sentie investie de la communion de mes parents. Je disais à Jésus dans ma prière, quand papa et maman s'aimeront, ma mission ici-bas sera terminée, tu pourras m'emmener avec toi. » Alors, au fond, à travers l'enfant qui se sent trop responsable, il y a quelque chose de trop qui est reposé sur ses épaules. Trop tôt. Il s'est senti responsable trop tôt. N'avait pas la force de le porter, n'avait pas la formation pour le porter. Et qui dit trop de responsabilité dit parfois une certaine culpabilité, qui n'est pas juste, mais qui est ressentie comme telle. Quand à 6 ans, 7 ans, 10 ans, l'enfant sent que c'est de lui, plus et moins confusément, peut-être il s'est créé l'obligation, mais il sent qu'au fond, ou les conflits sont dus à lui, ou c'est à lui de régler les conflits. Évidemment, ça le fait peser sur ses petites épaules beaucoup de responsabilités. Et donc il y a aussi, dans cette relation parent-enfant, une réconciliation à opérer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Donc à travers les différents niveaux dans la vie déjà de célibataire, ensuite au début de la vie conjugale, dans la relation avec les enfants, ça peut être aussi quelque chose qui peut servir comme examen de conscience et de remettre ça au Seigneur. À présent, on va avoir un temps de réconciliation sacramentelle, le Seigneur qui, dans le sacrement, vient à la rencontre et nous redonne d'ouvrir des portes alors qu'on était parfois face à des impasses. C'est dans ce sacrement que le Seigneur donc, nous permet d'ouvrir des chemins et de refaire que la relation puisse redevenir normale et puis saine et paisible, le plus possible en tout cas.